Bonjour, l'Église et moi. C'est le thème que nous avons choisi cette année. Et les deux prochains mercredis, nous allons aborder le thème « L'autorité, le pouvoir dans l'Église, qui la détient, dans quel domaine, et peut-être encore d'autres compléments. » Et ce matin, vraiment en prélude, en avant-propos de ces thèmes, je vous propose quelques lectures bibliques sur l'autorité divine, sur l'autorité de Dieu, sur l'autorité de Jésus. Et tout d'abord, avant d'ouvrir la Bible, je voudrais juste que nous réfléchissions au mot lui-même, autorité, et voir qu'il va faire contraste avec ce que nous allons lire tout à l'heure dans la Bible, parce qu'en effet, je ne sais pas comment c'est pour vous, même le fait d'avoir dit que le thème c'est l'autorité dans l'Église. Moi, quand j'entends le mot « autorité », souvent associé à autre chose, par exemple, la soumission aux autorités, c'est pas agréable. Et même si c'est biblique, et d'autant plus que c'est biblique, et les paroles de Paul qui nous disent qu'il faut obéir à toute autorité, car elles sont toutes données de la part de Dieu, ben c'est pas facile. Parce qu'il y a bien des autorités injustes, corrompues, qui sont contre les lois de Dieu. Mais aussi, plus proche de nous, les expressions qu'on entend très facilement, c'est des expressions qui sont liées à exercer trop d'autorité. Par exemple, un parent autoritaire, un patron tyrannique, un supérieur colérique. Et de l'autre côté, il y a le manque d'autorité, quand il n'y en a pas assez. Un chef de service qui manque d'autorité, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Vous voyez que finalement, ça nécessite beaucoup d'équilibre, et dès qu'on part avec le trop ou pas assez, ben, les conséquences peuvent être graves. Et si on pense aussi à notre société, en tout cas c'est mon idée là-dessus, moi, je pense que toute forme d'autorité est fortement contestée depuis plus d'une génération. Et nous en voyons, nous en récoltons les conséquences dans notre société actuelle. Alors, chacun peut avoir ses exemples. Pour les miens, puisque je n'ai pas quitté l'université, je vous parle de l'université. Pendant que j'étais étudiant, les enseignants avaient une très grande autorité que nous respections. Et peut-être j'ai expérimenté l'un qui en a abusé de cette position. Mais aujourd'hui, en tant qu'enseignant, les étudiants nous respectent parce que nous faisons bien notre travail et parce que nous avons une autorité naturelle. Mais c'est tout juste. Et il y en a quelques-uns qui abusent eux aussi bien de tous leurs droits et qui sont liés au système. Je ne dis pas que tout est mauvais dans tous ces changements, mais ils sont là et on en mesure les conséquences. Alors d'où vient tout cela? Encore un point négatif. Finalement, c'est lié à notre nature rebelle, à notre nature de péché qui nous poursuit partout. Je pense bien, beaucoup d'entre nous, je peux me citer, ont eu un problème avec une autorité un jour ou l'autre. Et chacun d'entre nous apprécie de faire ce qu'il a envie, en toute liberté, sans que quelqu'un d'autre n'interfère. Nous ne supportons pas que quelqu'un nous dise ce que nous devons faire. Bref, l'être humain a un problème avec l'autorité. Nous aimons l'exercer, mais nous avons du mal à nous y soumettre. Et toutes les organisations, qu'on parle de la famille nucléaire, aux entreprises, au gouvernement, tous, dans notre vie, nous avons à nous soumettre à une autorité, à exercer une autorité. Et nous reconnaissons qu'elle est nécessaire et bonne, mais nous nous y opposons facilement parce que nous voulons vivre notre autorité, notre propre autorité, et pas celle d'un autre. Parfois même, pas celle de Dieu. Voilà ce que j'exprime par notre nature pécheresse. Mais voilà, ça suffit. Ça suffit. On va ouvrir la Bible. Juste une remarque, de vocabulaire, puisque nous allons parler de l'autorité de Dieu. Je ne vais pas faire ce matin de différence entre les mots autorité, puissance et pouvoir, quand on parlera de nous peut-être. Deuxièmement, pour ceux qui ont déjà lu le Quoi de Neuf, c'est juste le premier paragraphe ce matin, d'accord ? Pas le deuxième. Alors si je vous frustre, comme ça je le fais dès maintenant. L'autorité de Dieu. Et je vous dis tout de suite la conclusion, et parce que nous l'avons déjà fait ce matin. L'autorité de Dieu, c'est, pour finir, ça va être notre source d'adoration. On l'a loué, on a cherché la gloire de Dieu ce matin, mais en fait, l'autorité de Dieu, ce n'est pas si loin que ça. Alors, cette autorité, pour moi, elle est partout affirmée dans la Bible, et donc on pourrait citer de nombreux versets, je pourrais même m'arrêter et vous demander d'en citer quelques-uns. Et moi-même, je vais vous en lire quatre, les trois derniers, je les prends simplement de mes lectures de cette dernière semaine ou de ces deux dernières semaines. Et le premier, j'y ai pensé en réfléchissant à ce thème, avec le chant qui s'appelle El Shaddai, Dieu puissant ou Dieu tout-puissant. J'ai pensé à cette expression et je me suis dit, c'est ça, l'autorité de Dieu. Elle est bien exprimée dans cette parole. Et donc, du coup, je vais vous lire un des passages dans lequel ce mot El Shaddai apparaît. C'est lorsqu'il apparaît pour la première fois dans la Bible. C'est Genèse 17, verset 1. C'est lorsque Dieu apparaît à Abraham pour la sixième fois. Et Dieu va se révéler à lui avec ce mot, avec cette expression. Lisons Genèse 17, verset 1. « Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu puissant, El Shaddai, le Dieu tout-puissant dans notre version. Marche en ma présence et sois parfait. » Et Dieu se révèle ainsi parce que, contrairement à tous les autres dieux qui sont des idoles, Dieu dit « Je suis le Dieu tout-puissant, omnipotent, omniprésent et omniscient. » Et quand on regarde ici le contexte dans lequel Dieu se révèle, on constate que le moment était bien choisi dans la vie d'Abraham. Vous avez vu son âge ? Seul Dieu qui possédait tout pouvoir, pouvait répondre aux besoins d'Abraham. Il avait 99 ans, son corps était mourant, sa femme Sarah était stérile et elle avait passé depuis longtemps l'âge d'avoir des enfants. Comment pouvait-il espérer avoir un fils ? Mais avec Dieu, tout est possible. Pourquoi ? Parce qu'il est El Shaddai. Le tout-suffisant, le tout-puissant. Voilà le Seigneur. Et les autres versets que je vous propose pour compléter cette idée, j'ai dit, c'est dans mes lectures quotidiennes, et vous-même, je pense que pendant que je parle, vous pouvez penser à d'autres passages qui nous disent que Dieu est tout-puissant. Et ce premier verset nous dit tout de suite pourquoi il se révèle par ce nom, parce qu'il est capable de faire l'impossible pour Abraham, son serviteur. Alors il y a un deuxième verset qui est dans le Nouveau Testament, c'est 2 Corinthiens 9, verset 8. Je trouve, après réflexion, je l'ai trouvé par hasard celui-là, mais finalement c'est le complément dans le Nouveau Testament de El Shaddai. Alors lisons ensemble ce verset, mais avant ça, juste pour dire, 2 Corinthiens 9, c'est le contexte de la collecte que Paul fait pour les fidèles de Jérusalem. Et Paul exhorte à la générosité des Corinthiens. Et voilà lorsqu'il arrive au verset chapitre 9, verset 8, oui, c'est ça. « Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toute chose et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de bien. » C'est un verset magnifique, et en fait, mon message ce matin, c'est ça. D'accord ? Ça va, c'est pas plus. En fait, il commence avec une hésitation. Quand on lit « Dieu est assez puissant », alors je viens de dire tout à l'heure « Dieu est tout puissant », mais vous voyez, les « tout » maintenant, ils sont après. Ils sont partout après. Il est assez puissant pour tout. Vous avez vu le nombre de fois que nous avons souligné ce mot dans ces quelques versets. Dieu est tout en tout. Et le premier, il est puissant pour nous donner toute grâce. Donc déjà tout, mais en abondance. Tu peux être généreux avec les fidèles de Jérusalem parce que Dieu peut te donner toute grâce en abondance. Et pourquoi ? Pour que vous ayez en toute chose et toujours tout ce qu'il vous faut. Dieu prend soin de nous. Et pas seulement cela, il nous donne une telle abondance que nous pouvons faire du bien au-delà. L'autorité, la puissance de Dieu, elle est là pour nous et pour nous rendre forts, pour que nous puissions aussi être en bénédiction autour de nous. Voilà l'autorité de Dieu, voilà comment elle est révélée, comment elle nous est donnée. Donc on voit ici pourquoi Dieu est puissant, pourquoi il se révèle par son autorité. Dans ce verset, le tout n'est pas sur Dieu, il est assez puissant, mais le tout est répété 5 fois de suite et 2 fois avec le mot abondance. Il n'y a donc pas de limite à ce que Dieu met à ma disposition pour que j'accomplisse toute œuvre bonne pour l'Éternel, toute œuvre que le Dieu Tout-Puissant a placée devant moi. Alors j'aimerais compléter ça avec un autre verset. Là, c'est le verset des « tout », et on va le compléter avec le verset des « jamais ». C'est aussi une parole qui est répétée pas mal de fois dans la Bible, et on va lire celle du Nouveau Testament, c'est Hébreux 13, verset 5. Il nous est dit que Dieu lui-même a dit « jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai ». Et vous voyez, c'est la même chose que le « tout » de tout à l'heure. Dieu dit cela. Et vous voyez, il n'y a pas le mot « autorité » dans ce verset, mais elle est bien exprimée par l'expression « Dieu lui-même a dit ». C'est la parole de Dieu qui a cette autorité. Et donc, c'est bien par cette autorité qu'il dit cela. « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai ». Ce n'est pas une parole d'un homme, ce n'est pas celle de Moïse qui, lui, a utilisé cette parole de la part de Dieu pour encourager Josué. Seul Dieu sait dire une telle chose. À mon frère, à ma sœur, je peux dire, avec l'aide de Dieu, jamais je ne te lâcherai. Mais seul Dieu peut le faire. Quand il le dit, c'est il le fait. Et notez aussi le contraste dans ce verset. Le début du verset est étonnant. C'est l'amour de l'argent qui est opposé à « jamais je ne t'abandonnerai ». Dans le Nouveau Testament, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, en 1 Timothée 6, 10. C'est quelque chose de grave, c'est un grave péché. Mais ici, ce péché, c'est de chercher la sécurité en dehors de Dieu. D'accord ? C'est vraiment l'opposé. Chercher la sécurité dans les biens matériels, ça peut nous amener, nous faire dériver vers l'amour de l'argent, mais c'est qu'on regarde vraiment au mauvais endroit. Et cette parole, je vous ai dit, elle est répétée un certain nombre de fois, dernier chapitre du Deutéronome, premier chapitre de Josué. C'est Moïse qui le dit à tout le peuple, et ensuite il va le dire directement à Josué, avec le peuple présent. « C'est toi qui vas remettre au peuple son héritage. C'est le Seigneur qui marchera devant toi, c'est lui qui sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas, ne t'effraie pas. » En fait, par ces paroles, qui vont encore être répétées à Josué au premier chapitre, plusieurs fois, et nous sommes parfois aussi comme Josué, nous avons besoin d'être encouragés encore et encore, ben en fait, par ces paroles, Dieu confère l'autorité à Josué de guider le peuple dans le pays promis. Donc ce sont des paroles qui le fortifient, qui lui donnent l'autorité d'agir, de vivre. C'était notre troisième verset, j'en ai encore un. C'est encore un verset pour montrer l'autorité divine, même si elle n'est pas du tout nommée ici, mais elle est présente partout. Et c'est le verset que j'ai lu dans Notre pain quotidien de vendredi, dont le sujet est « Bien vieillir ». Je voudrais partager cette petite anecdote et lire ce verset, vraiment pour honorer nos personnes âgées. Et bien sûr, ce verset est pour nous tous qui prenons de l'âge, qu'on en soit conscient ou pas. Ça fait plus de 20 ans que mon ami Wesley me répète une expression d'une dame âgée, Miss Anna, à qui il rendait régulièrement visite deux fois par semaine. Et elle disait « Getting old is a dog ». Oubliez l'expression, même Google ne sait pas la traduire, mais elle veut dire tout simplement « Vieillir, c'est pas facile ». Mais elle ajoutait aussi « Mais Dieu est bon ». Mais pour vous citer quelqu'un de plus connu que Miss Anna, écoutez ce que dit Billy Graham en 2011. Il dit « La vieillesse s'est révélée être la plus grande surprise de ma vie ». Et il écrit ça dans le livre « Nearing Home », sur le point de rentrer à la maison. Et il dit ceci « Je suis maintenant vieux et croyez-moi, ce n'est pas facile ». Ça, c'est Billy Graham qui aujourd'hui a 97 ans. J'ai vérifié cela. Et je pense que c'est une expérience. Vieillir, c'est difficile. Alors, vous dire que ce n'est pas facile. Mais Dieu est bon pour nous. Et ce verset, on peut le lire maintenant, c'est Ésaïe 46, verset 4. Il est prononcé par Dieu pour nous tous. Je commence avec le verset 3, mais on lira ensemble le verset 4. C'est Dieu qui parle. « Écoutez-moi, vous qui êtes pris en charge dès avant la naissance et portés dès le sein maternel, jusqu'à votre vieillesse, moi, je suis. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Moi, j'ai agi. C'est moi qui porterai, moi qui soutiendrai et délivrerai. » Voilà comment le Seigneur parle de vous, parle de nous. Comme lui seul peut le faire. Aucun homme ne peut dire des choses pareilles. Et vous voyez à quel point il insiste sur la première personne, tous ces « je » et ces « moi ». Voilà à quoi il utilise, notre Dieu Tout-Puissant utilise son autorité. Il le fait pour nous. Dieu est l'auteur et le détenteur de toute autorité. Il est le Dieu Tout-Puissant et il exerce son autorité en Dieu d'amour pour ses créatures. Et bien sûr, tant de grandeur et de puissance nous inspire la crainte, le respect de Dieu. Mais surtout, et c'est là la conséquence pour nous, la toute-puissance de Dieu devient notre source d'adoration, notre source de sécurité, de confiance. C'est parce qu'il détient toute autorité qu'il peut nous dire ces paroles merveilleuses, dire du bien sur nous, nous bénir. Et nous pouvons croire, nous pouvons saisir ces paroles. La réalisation de la toute-puissance de Dieu sur toute chose nous pousse à la foi, à saisir la main de Dieu. Donc Dieu, on va dire Dieu le Père. Et nous allons parler maintenant Alors attendez, avant de parler, j'ai pensé à un autre chant dans toutes mes réflexions qui dit « Tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner ». Qui est tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner ? Qui connaît le chant ? Eh ? C'est comme à l'école du dimanche, la réponse c'est Jésus. Jésus, tout puissant pour nous guérir. Et Jésus est notre modèle en toute chose, et donc il l'est certainement aussi pour nous apprendre ce qu'est l'autorité, comment la vivre, comment l'exercer. Première toute petite question, quand Jésus a marché avec les hommes, dans son corps d'homme, quelle part de l'autorité de Dieu, de son Père, avait-il en lui ? Non pas que je doute de votre réponse, mais on va laisser tout simplement la parole de Dieu elle-même nous répondre. Lisons quelques versets sans commentaire. Matthieu 11, verset 27. « Tout m'a été remis par mon Père, personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils. » Il dit ici « tout m'a été remis par mon Père. » Jean 3, verset 33. « Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. » Jean 13, verset 3, que nous relirons tout à l'heure. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, il se mit à laver les pieds des disciples. Jean 17, verset 2. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et enfin, la fin de Matthieu, Jésus a dit, il s'approche des disciples et il dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Donc, on a la réponse. Jésus a reçu de Dieu, de son Père, toute autorité. L'autorité dont on a parlé tout à l'heure, elle était sur Jésus. Alors, il était sur lui quand il a marché sur terre. Et ça m'a fait du bien de le re-réaliser, parce que parfois, quand on lit un peu trop rapidement, ou d'autres personnes qui ne sont pas croyantes, qui regardent ce qui s'est passé au moment où Jésus a été arrêté, on dirait qu'il n'avait aucune force, aucune autorité. Quand on voit l'hostilité croissante à son ministère et ensuite les plans qui sont mis en œuvre du pouvoir religieux pour l'assassiner, ça semble se réaliser lorsqu'il a été arrêté, injustement condamné, outragé, maltraité, pour ensuite subir le supplice de la crucifixion et mourir abandonné par ses disciples. Mais nous savons que dans tout cela, ce n'est pas parce que Jésus manquait de pouvoir ou d'autorité pour se défendre, c'est qu'il l'a volontairement laissé de côté. Il ne l'a pas utilisé, il ne l'a pas exercé. J'aimerais vous le dire en revenant à l'arrestation de Jésus. Vous vous souvenez, un de ses disciples a sorti l'épée et a coupé une oreille. Et Jésus lui dit « Rentre ton épée ». Et il dira ceci « Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. » Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures ? Jésus venait de prier à l'agonie dans le jardin de Gethsémané, soumettant sa volonté à celle de son Père. Et c'est là qu'il a décidé d'accomplir les Écritures. Et ainsi, au moment de son arrestation, il était toujours revêtu de son autorité. Il aurait pu faire appel au secours, le Père, sachant que celui-ci viendrait à son secours. Mais il a volontairement renoncé toute défense. Donc qu'elle soit humaine, l'épée, ou divine, les légions d'anges. Un peu plus loin, lorsque Jésus est devant Pilate, est questionné par lui, et il ne répond pas, Pilate, on va dire, il s'énerve un peu et il lui dit « Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. » Pilate est un mauvais exemple par rapport à l'exercice de l'autorité qu'il avait. Il avait bien compris que Jésus était innocent et il ne l'a pas relâché. Au contraire, c'est lui qui l'a fait crucifier. Et le lavage public de ses mains, ça ne l'a pas purifié de son péché, de cet acte injuste et odieux. Et pourtant, Jésus lui avait bien fait comprendre qu'il n'avait ce pouvoir que parce que Dieu, le Père des Lumières, nous dira Jacques, c'est parce que ça lui avait été donné. Cette autorité venait de Dieu. Et j'aimerais faire cette remarque, même si elle n'est pas aussi bien appropriée pour le faire ici, sur ce verset, mais simplement rappeler que pour nous aussi, l'autorité que nous avons, quelle qu'elle soit, elle nous vient de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et pour que nous l'exercions pour le bien, pour notre bien et pour le bien de notre prochain. Toujours. Et c'est là notre responsabilité. C'est là notre liberté. C'est important de le faire. Mais revenons à Jésus. Jésus n'a jamais exercé son autorité pour se défendre, pour lui-même, pour justifier sa cause, pour éviter de souffrir. Il l'a uniquement exercé pour le bien de tous ceux pour lesquels il était venu servir et dans la soumission au Père. Et dans ces instants où il allait à la croix, il était encore revêtu de toute autorité. Et il y a un dernier verset par rapport à ça que nous pouvons projeter, c'est Jean 10, verset 18, qui est un verset extraordinaire, parce que Jésus se défend ici dans Jean chapitre 10, versets 11 à 18, et au verset 17, il dit déjà « Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. » Et comme ce n'était pas suffisant, Jésus le répète au verset 18, il dit « Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. » C'est extraordinaire. Vous voyez, il a le pouvoir de recevoir la vie à nouveau après les 3 jours dans le tombeau. Jésus a l'autorité sur la mort comme Dieu. Il est Dieu. Alors, bien sûr, les récits des évangiles sont très riches quant à l'autorité de Jésus manifestée par ses enseignements et ses actes. Il enseignait avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. On aurait quantité de choses à dire là-dessus. Souvenez-vous de la guérison du paralytique. C'est une bonne illustration que Jésus enseigne, il va dire « tes péchés te sont pardonnés » et ensuite il va le guérir et c'est merveilleux. Le peuple, il est à la fois stupéfait par la grandeur de la chose et elle glorifie Dieu. Mais il y a aussi à côté ceux qui disent, les scribes disent « ils blasphèment » et ils n'ont jamais reconnu l'autorité de Jésus. Au contraire, eux qui devaient libérer le peuple, parce que la parole de Dieu nous libère. Jésus est venu pour nous apporter la liberté. Eux, ils ont mis des fardeaux pesants sur le peuple. Nous n'avons pas maintenant le temps de développer ça. J'aimerais simplement faire une liste tout à fait arbitraire de quelques points pour comment nous pouvons le mieux apprendre de l'autorité de Jésus. En fait, c'est en étant comme son disciple. C'est là que nous voyons comment Jésus, qui a toute cette autorité, il l'a mis en pratique dans sa vie avec les disciples. Il les a pris avec lui et il a vécu avec eux tous les jours pendant les 3 ans de son ministère. Il les a formés par l'exemple, il a usé d'une patience sans faille, il ne les a jamais abandonnés, il ne s'est jamais découragé avec eux. Et alors juste arbitrairement quelques points que j'ai juste notés comme ceci, il leur a enseigné à prier et lui-même était un modèle de prière. Il leur a ainsi appris, de manière pratique, ce que c'est d'être soumis constamment à son Père. Jésus a dit, en Jean 4, 34, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, etc., etc. C'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je veux faire. » Jésus aussi, il a transmis son autorité et pouvoir à ses disciples. Il les a envoyés prêcher, il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et de même pour faire des guérisons. Il les a envoyés proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Jésus ne s'est pas offusqué lorsque la mère des fils de Zébédée est arrivée avec une exigence démesurée. « Ordonne !» que mes fils soient assis, l'un à ma droite, l'autre à ma gauche. Qu'est-ce qu'il a fait à Jésus ? Il les a même protégés, il les a défendus contre les autres disciples qui, eux, étaient offusqués. Il a dû rabrouer Jacques et Jean quand ils voulaient faire descendre le feu du ciel parce que cette ville des Samaritains ne les a pas bien accueillis. Et si l'Esprit de Dieu nous anime, jamais il ne nous laissera utiliser notre autorité pour faire de cette manière. Et je vais encore lire le texte qui nous donne l'exemple suprême de Jésus, pour comment il a vécu avec ses disciples. C'est Jean chapitre 13. Je vous lis quelques versets, je vous invite à écouter. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Et quelques versets plus loin, Jésus dit, explique, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez laver les pieds les uns aux autres. » C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Voici donc l'exemple de Jésus qui a servi le roi serviteur, en toute humilité, et qui nous invite à suivre ses pas. Alors pour conclure, j'aimerais vous lire les deux derniers passages, enfin un passage. Nous avons déjà lu le début. L'autorité de Jésus, Jésus l'a reçue de Dieu et l'a mis en pratique. Mais Jésus ensuite, il a donné cette autorité à ses disciples. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si nous sommes là ce matin, c'est parce que des disciples de toutes les nations, avant nous, nous ont parlé du Seigneur. Ils ont fait ce que Jésus leur a commandé. Et là, ici, Dieu, en Jésus, s'adresse à nous. Jésus a tout pouvoir et il nous donne l'autorité pour annoncer l'Évangile et faire des disciples. J'ai lu une prière cette semaine de Jennifer Leclerc. Elle dit « Merci de nous donner l'autorité d'utiliser le nom de Jésus. » Jésus nous a appris à prier en son nom. Il met ainsi son autorité à notre disposition en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et est-ce qu'il nous donne assez d'autorité pour accomplir notre service ? La réponse est oui. Dieu est assez puissant pour nous donner toute grâce en abondance. Il est assez puissant pour que nous ayons en abondance de quoi faire des disciples de toutes les nations, de quoi répondre, de quoi faire ce qu'il nous demande à chacun d'entre nous. Prions un instant. Seigneur, ce matin, nous te louons pour ta gloire merveilleuse et nous te louons pour ton autorité que tu utilises, qui est là pour nous bénir, pour nous faire vivre. Merci parce que ces paroles, nous pouvons les recevoir, parce que tu es le Dieu tout suffisant, tout puissant, et nous voulons les saisir. Merci parce que tu es toujours avec nous, dans notre vie quotidienne, dans notre service pour toi. Seigneur, que ce que nous apprenons de toi nous aide à bien vivre et à comprendre ce que tu nous demandes en pratique. Comment utiliser les dons, l'autorité que tu nous donnes sur chacune de nos vies. Merci Seigneur pour ta parole et aide-nous à la mettre en pratique. Amen.